pour discuter. N'hésitez pas à vous servir aussi de toutes les publications qui sont sur la table. J'en profite juste pour remercier le lieu unique de nous accueillir et de Clément qui est notre technicien pour la journée et pour la semaine même de nous mettre aussi facilement à disposition tous ces éléments techniques. Et puis, pour ma part, je remercie vraiment l'équipe Mobilis d'être mobilisée pour la semaine. 6 jours d'affilée, c'est pas rien. Il y a Anaëlle qui est derrière, qui est à la gestion administrative et financière, qui a la particularité d'être et salariée Mobilis et salariée Art Visuel, Pôle Art Visuel. Émilie qui est juste derrière, là, qui fait coucou, qui est donc en charge du patrimoine écrit à Mobilis. Clément, notre stagiaire tout-terrain, qui est, je ne sais pas où, qui doit être en bas en train encore d'accueillir des gens. Et puis Emmanuelle Garcia, la directrice de Mobilis, qui est derrière, qui va aller chercher Benoît Peters à la garde. Vas-y, parce que tu es à la bourre. Et voilà, donc Emmanuelle, c'est son RTT aujourd'hui, hein, parce que c'est un peu l'architecte du forum. Et nous, on est les maîtres d'œuvre, on va dire, mais aujourd'hui, c'est sa journée un peu plus off. Donc voilà, on prend le relais. Je passe la parole à Nathalie, du coup, des Pôles Arts Visuels.
Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Lebert du Pôle Art Visuel Pays de la Loire. Bon, vous connaissez bien le fonctionnement Mobilis. On a un fonctionnement qui est assez ressemblant à celui de Mobilis. On a parmi nos adhérents, donc on est à peu près à 210 adhérents aujourd'hui, une majorité d'artistes, hein, plus de 100 artistes adhérents du pôle aujourd'hui. D'où effectivement tous ces sujets qu'on a à cœur de traiter, toutes ces questions qu'on a à cœur de développer et tous ces échanges qui, j'espère, continueront à nourrir nos actions qui sont vraiment centrées de plus en plus aussi sur les questionnements des artistes aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir. Il faut que cette journée soit une journée d'échange avec les personnes invitées qui ont des choses à apporter et puis vous tous qui évidemment pouvez contribuer à ces réflexions et qui avez des choses à apporter. Et puis on espère aussi surtout que cette journée va permettre d'en faire d'autres, ensemble sans doute, on espère, s'ils sont d'accord. Et évidemment, continuer à nourrir nos réflexions et nos actions à venir. Merci aux deux coéquipiers pour tout ce travail, pour toute cette journée. C'est un grand plaisir de travailler ensemble et puis d'unir nos forces sur ces questions-là. Je pense que c'est assez essentiel actuellement. Merci beaucoup d'être présent et puis n'hésitez pas, je suis disponible dans la journée pour échanger avec vous, bien entendu. Bonne journée à tous.
Bonjour, donc moi c'est Émile de Maison Fumetti, donc lieu dédié à la bande dessinée aux arts graphiques qui est né il y a 3 ans. Je vais juste rebondir sur ce que disait Nathalie. Oui, effectivement, la pertinence de co-construire des journées comme ça à plusieurs structures qui n'ont pas forcément le même cœur de cible artistique, il se trouve quand même là puisque 160 artistes qui s'inscrivent pour participer à une journée de réflexion sur leur statut, leur métier, c'est quand même assez fort qu'on ait réussi à faire ça, vous réunir tous aussi nombreux, donc voilà, ça prouve qu'à plusieurs on peut être plus fort. Voilà, nous on est principalement sur donc Maison Fumetti principalement sur à destination des auteurs de bandes dessinées, des illustrateurs et arts graphiques. On a une action professionnelle à l'année, mais on a aussi une grosse action grand public aussi à l'année, dont le point d'orgue est le festival Fumetti qui commence demain. Donc vous avez eu un petit descriptif sur votre chaise. Qui est un festival de bande dessinée d'art graphique gratuit, participatif, festif. On vous encourage vivement à venir, puisque voilà, c'est un peu le point d'orgue d'une année d'activité. On fait toute l'année, il y a des rencontres, toute l'année, il y a des expos, toute l'année, il y a des animations, en faire divers en public. Et puis là, concentré sur un week-end, il y a plein de choses. Donc on vous encourage vivement à venir. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, voilà, si vous avez des questions sur Maison Fumetti, je suis disponible.
Je passe la parole à Pascal Massiot, qui est journaliste et qui a accepté d'animer cette journée. Merci, Pascal.
Merci, Stéphanie. Donc, Stéphanie Lechêne de Mobilis, Émile Schiffolo de Maison Fumetti, Nathalie Lebert du Pôle des Arts Visuels de la région des Pays de la Loire. Alors, je ne vais pas dire ce qui a déjà été dit, que cette journée professionnelle est organisée par Mobilis, le pôle régional des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, en partenariat avec Maison Fumetti et le pôle des arts visuels. C'est, vous le savez, une journée autour de la question de l'artiste-auteur, de ce métier, de ces métiers. Alors un secteur riche, mais des acteurs précaires très largement. Et puis une journée qui s'inscrit, ça a été dit, dans le cadre du 5e forum du livre et de la lecture, alors qui se déploie dans différents lieux de la région, du 11 au 18 juin. Alors demain, à la Manu des Tabacs, bien, ce sera la 4e journée des bibliothèques proposée par le groupe Bibliothèque de Mobilis à partir de 9h30. Vendredi 14, au lieu unique, bien, lecture, avec un S au deuxième terme lecture. À Angers, il se passe des choses au quai également. La Cité des Congrès, le lundi 17. Une journée pro, la librairie, lieu multiple, c'est marrant de le dire, au lieu unique. Et le mardi 18, à la bibliothèque Jacques Demy, le patrimoine écrit en Pays de la Loire. Voilà. Alors, on en vient maintenant à notre sujet, notre journée. Artiste, auteur, un métier. D'ailleurs, est-ce un métier ? On pourrait en douter, tant la reconnaissance des artistes auteurs par les pouvoirs publics est faible. Alors, d'un point de vue économique et statutaire, notamment, mais pas que. Alors, vous le savez, pas de régime d'intermittence pour les artistes auteurs, contrairement au secteur du spectacle vivant. Ainsi, la précarité touche tous les auteurs, autrices du livre, dessinateurs, dessinatrices et scénaristes, autant qu'illustrateurs, illustratrices, auteurs, autrices de romans, coloristes, traducteurs, traductrices, correcteurs, correctrices, ainsi que plus largement tous les artistes, photographes, graphistes, plasticiens, plasticiennes. C'est ce que nous dit la lettre qui a été adressée en avril 2018 à Françoise Nyssen, alors ministre de la Culture, par le collectif Artistes Auteurs. Et puis, petit rappel, en France, il y a seulement 5% des auteurs qui vivent de leurs droits d'auteur. Alors, pendant toutes ces journées, c'est du statut social, notamment, mais aussi économique, des conditions de travail des créateurs dont il va être question. Dire que les créateurs, dans leur ensemble, sont dans une position délicate et qu'ils nécessitent une attention particulière relève de l'euphémisme. Il y a plutôt urgence en la matière. Mais alors, que faire face à la déconsidération économique dont souffrent les activités artistiques ? Comment faire rimer travail avec salaire ? Comment mettre à mal peut-être aussi l'idée reçue, folklorisée, irréaliste de l'artiste bohème qui vivrait d'amour et d'eau fraîche ? Alors ce seront sans doute parmi les axes de questionnement que nous emprunterons aujourd'hui. Alors avant que de donner la parole à Dominique Sagot-Duvauroux, quelques points de repère sur notre journée. Donc conférence de Dominique Sagot-Duvauroux, prise de parole d'une trentaine de minutes, puis échange avec la salle d'une durée à peu près équivalente. Vous allez questionner les modèles économiques notamment, mais pas que. Ensuite, première table ronde en vivre. Et oui, comment on vit ? Comment vivre de son métier d'artiste ? Quelle rémunération pour les artistes auteurs ? Quelle perspective également pour la profession ? On verra ça avec Aurélien Quentin du collectif Labuse. Je vous donnerai quelques points de repère sur ce collectif. Avec Benoît Peters également, scénariste de BD, écrivain, critique et membre également secrétaire de la Ligue des auteurs professionnels. Là aussi, une bonne part d'échanges avec la salle. On fera une petite pause d'ailleurs entre la conférence de Dominique Sagot-Duvauroux et la première table ronde. 5 petites minutes. Je sais que ça sera 10, mais on va dire 5. Alors, voilà pour la fin de la matinée. On reprendra à 14h30 avec une seconde table ronde en parler. Parler de la vie au quotidien de l'artiste-auteur, parler du bonheur ou du besoin d'être artiste-auteur. Et puis comment en parler, surtout pour peut-être parvenir à faire changer les choses, pour sensibiliser le monde de la culture, le monde en général, le grand public. On verra ça avec deux artistes plasticiennes, Marie-Pierre Ducoc et Hélène Duclos, et avec un écrivain, Martin Page. Alors je vous conseille vraiment fortement la lecture de cet ouvrage collectif paru chez Monstographe. Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger ? C'est un brin provocateur dans le titre, mais voilà, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y aura comme un effet miroir de ce qui est dit très précisément et avec beaucoup de sensibilité et de prise de repère dans cet ouvrage-là. Voilà pour les contours de cette journée dense et riche en perspective. Dominique Sagot-Duvauroux, vous êtes professeur à l'Université d'Angers, spécialiste des questions économiques et culturelles, spécialiste de l'économie culturelle. Je le disais, une trentaine de minutes d'intervention. Vous allez nous rappeler un peu les fondamentaux de l'économie culturelle. Vous allez ensuite questionner les modèles économiques. Et puis, on attend évidemment avec impatience quelles pistes on pourrait emprunter pour que les choses aillent un peu mieux. Je vous laisse la parole.
Oui, en fait, il y aura l'avant aujourd'hui et l'après. C'est-à-dire que l'avant, c'est le marasme, tu l'as décrit, et après ça, ça va être le paradis. Les économistes sont bien connus pour toutes les solutions qu'ils nous apportent tous les jours à nos problèmes quotidiens. Mais écoutez, je voulais d'abord remercier Mobilis, le pôle des arts visuels, la Maison Fumetti. Je suis désolé, je n'ai pas mis la Maison Fumetti sur ma diapositive, je m'en excuse. Je voulais dire aussi que moi, j'ai surtout travaillé sur les arts visuels, donc mon intervention, elle va être plus imprégnée des arts visuels, mais j'ai deux, trois choses aussi sur les arts du... plus du livre, sachant que de toute façon, on est toujours face à des indépendants qui vivent dans une économie où il n'y a pas tellement de branches professionnelles, où on travaille sur des projets, où il y a de l'aléa permanent, donc il y a quand même un dénominateur commun pour toutes ces professions qu'on va retrouver. Effectivement, je vais faire une intervention en trois temps. Dans un premier temps, je vais rappeler un certain nombre de lois, de données liées à l'économie des artistes, à l'économie de la culture en règle générale. Et puis, dans un deuxième temps, je passerai en revue les façons qu'ont les artistes de gagner leur vie, hein, depuis la vente des œuvres aux subventions, en passant par des produits dérivés, le mécénat, toutes ces choses-là. Et puis, je terminerai effectivement par quelques pistes de réflexion sur comment faire évoluer les choses dans ces professions. Alors là, je vous ai mis quelques chiffres sur les arts visuels qui sont tirés d'un rapport qui a été fait par le gouvernement pour le Parlement sur la situation des arts visuels et qui a été rédigé par Pascal Murgier, qui travaille à la Délégation générale pour la création artistique au ministère de la Culture, où il a essayé de réunir un certain nombre de données, d'informations sur les artistes. Donc vous avez en gros 200 000 artistes dans les arts visuels qui émargent d'une manière ou d'une autre aux organismes de protection sociale. Et dans ces 200 000, vous en avez 65 000 qui sont affiliés au régime social des auteurs, avec donc 45% de plasticiens, 40% de graphistes, 10% de photographes, 5%, j'ai pas mis le, enfin 10% d'illustrateurs, hein, c'est ce qui manque. Et un chiffre qui est important, mais j'y reviendrai tout à l'heure, dans ces 65 000 personnes qui sont affiliées, donc ça veut dire qu'ils ont les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection sociale des auteurs, il n'y en a que 10 000 qui, sur une période de 5 ans, le ministère a fait une étude sur les revenus moyens sur 5 ans, donc c'est des gens qui ont déclaré un chiffre d'affaires et un bénéfice non commercial positif entre 2010 et 2014, il y en a que 10 000 hein, qui ont un revenu net supérieur à 1430 euros par mois, ce qui est évidemment pas beaucoup. Rappel sur certains faits stylisés de l'économie artistique. Premier élément, alors vous n'allez peut-être pas comprendre très, très bien le lien entre ce que je vais vous dire et cette photographie. Premier élément, c'est que... c'est des banalités un peu que je raconte, hein, mais c'est une économie de main-d'œuvre. Et c'est une économie de main-d'œuvre dont le travail est largement invisible. Finalement, l'œuvre, elle ne dit pas grand-chose du travail qu'il y a derrière pour faire cette œuvre. Or, ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas désigné, n'a pas de valeur. Donc, une des raisons de la fragilité de cette économie, c'est que précisément, l'essentiel du travail est invisible. Et comme ce qui est invisible n'a pas de valeur, ben, finalement, ce travail n'est pas rémunéré. On pourrait faire référence au jardin de Gilles Clément sur la base de Saint-Nazaire, où il a donné des noms aux mauvaises herbes. À partir du moment où on donne un nom à une mauvaise herbe, à partir du moment où on donne un nom à un migrant, à partir du moment où on donne un nom et une mesure à un travail, eh bien, ça devient visible et ça prend de la valeur. Mais tant qu'il n'y a pas de dénomination, tant qu'il n'y a pas de... de mise en visibilité, tout ça n'a pas de valeur. Donc ça, c'est une des grandes caractéristiques de tout ce travail, c'est que finalement, on ne sait pas quel est le travail qu'il y a derrière un texte, une image, une peinture. Alors, cette photographie-là, je vous l'ai mise parce que Anders Petersen, c'est un grand photographe qui a fait un livre il y a maintenant pas mal d'années, il y a une cinquantaine d'années, qui s'appelle Café Les Mythes, qui est un café d'Hambourg. Et en fait, cette photographie-là, qui paraît être une photographie instantanée, qui lui a pris un 60e de seconde, en fait, il n'a pu l'apprendre parce que pendant 3 ans, il a fréquenté ce café, il s'est mêlé aux gens, il s'est fait apprivoiser par ces gens. Et cette photographie-là ne serait absolument pas possible à prendre pour quelqu'un qui n'aurait pas passé tout ce temps-là. Et dans la photographie, la photographie, c'est quelque chose de très plat, apparemment, mais il y a une profondeur temporelle qu'on retrouve notamment dans un certain nombre de photographes comme chez Petersen, comme chez Chris Killip aussi en Angleterre, où c'est des gens qui vont devoir investir pendant plusieurs années un sujet pour pouvoir tirer une image qui va être le reflet de ce qu'ils veulent faire. Donc ça, c'est pour montrer le côté invisible des choses. Alors, le problème de cette invisibilité, c'est qu'elle favorise la gratuité. Donc, une des caractéristiques aussi de cette économie, c'est que c'est une économie où il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Alors, les choses gratuites, elles peuvent être gratuites parce qu'on décide qu'elles le soient. Là, il n'y a absolument pas de problème. Il y a toute une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on a intérêt à rendre gratuite, qu'est-ce qu'on veut rendre gratuit pour des raisons à la fois économiques, sociales, politiques. Mais le problème, c'est que cette gratuité, elle est très souvent subie. Elle est renforcée en plus dans toute une série de métiers par le développement du numérique qui accentue la pression à la baisse des prix le fait que dans la tête des gens, dans la fête des utilisateurs, la norme, c'est la gratuité. Alors, on pourrait parler évidemment du droit de monstration des artistes dans des lieux d'exposition. Dans un colloque qu'avait organisé la SAIF au Sénat il y a quelques semaines, il y avait une auteure de bande dessinée qui disait aussi, qui remettait en cause la gratuité des dédicaces. Les auteurs de bande dessinée vont dans les festivals à Angoulême ou ailleurs et ils passent des journées à signer des livres. Et ça, c'est toujours gratuit alors que c'est du travail. Il y avait un sculpteur qui parlait du fonctionnement des symposiums où finalement le travail là encore était très souvent gratuit. Très souvent le défraiement se substitue à la rémunération. Finalement, on dit déjà on vous prend en charge votre déplacement, on vous prend en charge votre repas, donc vous n'allez quand même pas demander une rémunération. Donc il y a l'invisibilité du travail se traduit par finalement une très grande difficulté à le transformer en valeur économique parce qu'il y a tous ces phénomènes là qui existent. Troisième caractéristique de cette économie. Alors, on est dans une économie aussi qui a comme particularité d'avoir des coûts qui s'ajustent aux conditions économiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que si vous avez 1 000 euros pour faire une œuvre, vous allez la faire avec 1 000 euros. Si on vous donne 10 000 euros, vous allez le faire avec 10 000 euros. Et si on donne 1 million d'euros, vous allez le faire avec 1 million d'euros. Le problème en général des artistes-auteurs, ce n'est pas de dégager des marges. Donc, en fait, s'ils ont beaucoup d'argent, ils vont faire des œuvres qui coûtent beaucoup plus cher que s'ils n'ont pas d'argent. Donc, il y a une espèce d'ajustement permanent du coût des œuvres aux ressources que l'on peut obtenir, mais qui renforce aussi un peu, d'une certaine façon, cette idée d'invisibilité du travail. Puisque si, d'un côté, un artiste va demander 1 000 euros pour une œuvre et qu'un autre artiste qui fait un objet qui est à peu près le même lui demande 10 000 euros, on va dire, il est où le travail, finalement ? Il est invisible. Quatrième caractéristique, on est dans une économie où le marché du travail n'est pas régulé par le jeu de l'offre et la demande. En économie, on nous dit hein, le prix s'établit à l'intersection de la courbe d'offre et de la courbe de demande. Dit plus simplement, ça veut dire que finalement, s'il y a une surproduction, eh bien, les prix vont baisser pour pouvoir écouler la production. Ou s'il y a une trop forte abondance de main-d'œuvre, les salaires vont baisser. On le voit bien avec le développement du chômage. Hein, c'est plus difficile de revendiquer des augmentations de salaire lorsqu'il y a 10% de chômeurs que quand on est en situation de plein emploi. Mais ces mécanismes-là n'opèrent pas ou opèrent de façon très, très marginale dans ces professions où on voit simultanément l'augmentation du nombre de professionnels et en même temps la diminution de la rémunération. Ce qui évidemment pose des questions de rationalité pour un économiste qui se dit mais comment ça se fait que ça ne s'ajuste pas ? Eh bien c'est lié évidemment au fait que la raison pour devenir artiste ou pour devenir auteur, elle n'est pas simplement une raison économique. Hein, c'est des engagements qui sont souvent des engagements vitaux qui font qu'on fait ce métier-là indépendamment d'une certaine façon des conditions de rémunération. Mais évidemment, ça pose des problèmes économiques. Hein. Entre 1991 et 2014, il y a eu plus 31% d'artistes plasticiens, plus 18% de photographes, pourtant les revenus des photographes ont chuté, plus 97% de professionnels des arts graphiques, de la mode, de la décoration. Hein. Donc on a une forte augmentation de la population des artistes et en même temps on a une stagnation dans le meilleur des cas et plutôt une dégradation du revenu. Donc ça crée des pressions à la baisse des revenus, ça crée des questions de surproduction qui est souvent questionnée dans le domaine du livre. Hein, c'est 200 nouveaux livres par jour, hein, j'ai lu dans le monde de l'édition. Cinquième caractéristique de cette économie, alors c'est une caractéristique qui m'est assez chère, c'est que ce sont des économies qui produisent de la valeur, qui s'évaporent des filières et qui va se déposer sur d'autres secteurs d'activité, le tourisme, Internet. Et cette valeur qui peut être très importante, elle revient de façon très, très imparfaite dans les filières artistiques. Il y a des fuites de valeur qui aboutissent au paradoxe que il y a de plus en plus de livres, il y a de plus en plus d'images. Ces images sont de plus en plus diffusées, mais les revenus des auteurs diminuent. Il y avait un économiste qui s'appelait Robert Solow qui écrivait dans les années 80 à propos de la situation américaine. On appelle ça le paradoxe de Solow. Aux États-Unis, on commence à voir des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Alors, on pourrait dire que dans le secteur culturel, on a un peu un autre paradoxe, c'est qu'on voit des images, de la musique, des écrits partout, sauf dans les statistiques des revenus des auteurs. C'est parce qu'en fait, la culture a sans doute jamais produit autant de valeur, y compris de la valeur économique, qu'aujourd'hui. Mais une grande partie de cette valeur va se fixer sur les capitalisations boursières des GAFAM, sur le chiffre d'affaires des entreprises de tourisme, mais sans revenir pour une juste proportion dans les filières. Donc ça, c'est un gros problème. Et dans les pistes de réflexion, on y reviendra, parce que la question, c'est de savoir comment on peut trouver un alambic qui va faire revenir une partie de cette valeur qui est très souhaitable hein, dans les revenus des... dans les revenus des auteurs. Alors vous avez là les résultats d'une étude qui avait été faite par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires culturelles, qui avait essayé de mesurer en partie cette valeur ajoutée des activités culturelles au reste de l'économie. Hein. Donc, la valeur ajoutée globale des activités culturelles était de l'ordre de 60 milliards d'euros, c'était en 2013, auquel il fallait rajouter pratiquement autant, hein, 47 milliards d'euros, d'effets induits, et là uniquement sur le tourisme. Ne sont pas comptés les effets induits sur les GAFA. Je vous donne juste un exemple. Ça ne concerne pas le monde des arts et de la littérature, mais le monde de la musique. Vous avez une société de streaming, la plus grosse société de streaming dans le monde, qui s'appelle Spotify, qui a été mis en bourse. Donc, on a eu des données sur cette société-là. La capitalisation boursière de Spotify, elle est de 26 milliards de dollars. Alors que le chiffre d'affaires global de la musique dans le monde, il est de 16 milliards de dollars. Vous avez une capitalisation boursière d'une entreprise qui est supérieure au chiffre d'affaires que fait l'ensemble de la musique. Et pourquoi ? Parce que finalement, Spotify, à travers la musique, ils vendent d'autres choses, ils sont positionnés sur d'autres marchés. Et cette valeur-là, c'est de la spoliation, en fait, on pourrait dire. Alors, quand on sait que des sociétés comme Apple ou comme Amazon ont eu des chiffres d'affaires qui ont dépassé les 1 000 milliards de dollars, pas des chiffres d'affaires, des capitalisations boursières, donc la valeur en bourse, si on revend, c'est ça que ça vaut, de plus de 1 000 milliards de dollars, vous voyez l'importance de ces fuites.